en passant, en traversant ainsi sans hâte bien des peuples et maintes villes, Zarathoustra retournait par des détours vers ses montagnes et sa caverne. Et en passant, il arriva ainsi à l'improviste à la porte de la grande ville. Mais lorsqu'il fut arrivé là, un fou écumant sauta sur lui, les bras étendus, en lui barrant le passage. C'était le même fou que le peuple appelait le singe de Zarathoustra, car il imitait un peu les manières de Zarathoustra et la chute de sa phrase. Il aimait aussi à emprunter au trésor de sa sagesse. Le fou, cependant, parla ainsi à Zarathoustra. Ô Zarathoustra, c'est ici qu'est la grande ville. Tu n'as rien à y chercher et tout à y perdre. Pourquoi voudrais-tu patauger dans cette fange? Aie donc pitié de tes jambes. Crache plutôt sur la porte de la grande ville et retourne sur tes pas. Ici, c'est l'enfer pour les pensées solitaires. Ici, l'on fait cuire vivantes les grandes pensées et on les réduit en bouillie. Ici pourrissent tous les grands sentiments. Ici, on ne laisse cliqueter que les petits sentiments desséchés. Ne sens-tu pas déjà l'odeur des abattoirs et des gargotes de l'esprit? Les vapeurs des esprits abattus ne font-elles pas fumer cette ville? Ne vois-tu pas les âmes suspendues comme des torchons mous et malpropres? Et ils se servent de ces torchons pour faire des journaux. N'entends-tu pas ici l'esprit devenir jeu de mots? Il se fait jeu en de repoussants calembours, et c'est avec ces rinçures qu'ils font des journaux. Ils se provoquent et ne savent pas à quoi. Ils s'échauffent et ne savent pas pourquoi. Ils font teinter leur fer blanc et sonner leur or. Ils sont froids et ils cherchent la chaleur dans l'eau de vie. Ils sont échauffés et cherchent la fraîcheur chez les esprits frigides. L'opinion publique leur donne la fièvre et les rend tous ardents. Tous les désirs et tous les vices sont élus domicile ici. Mais il y a aussi des vertueux. Il y a ici beaucoup de vertus habiles et occupées. Beaucoup de vertus occupées avec des doigts pour écrire, des culs de plomb et des ronds de cuir ornés de petites décorations et paires de filles empaillées et sans derrière. Il y a ici beaucoup de piété et beaucoup de courtisanerie dévote et de bassesse devant le dieu des armées. Car c'est d'en haut que pleuvent les étoiles et les gracieux crachats. C'est vers en haut que vont les désirs de toutes les poitrines sans étoiles. La lune a sa cour, et la cour a ses satellites. Mais le peuple mendiant et toutes les habiles vertus mendiantes élèvent des prières vers tout ce qui vient de la cour. Je sers, tu sers, nous servons. Ainsi prie vers le souverain toutes les vertus habiles, afin que l'étoile méritée s'accroche enfin à la poitrine étroite. Mais la lune tourne autour de tout ce qui est terrestre. C'est ainsi aussi que le souverain tourne autour de ce qu'il y a de plus terrestre. Mais ce qu'il y a de plus terrestre, c'est l'or des épiciers. Le dieu des armées n'est pas le dieu des lingots. Le souverain propose, mais l'épicier dispose. Au nom de tout ce que tu as de clair, de fort et de bon en toi, ô Zarathoustra, crache sur cette ville des épiciers et retourne en arrière. Ici, le sang vicié, mince et mousseux coule dans les artères. crache sur la grande ville qui est le grand dépotoir où s'accumule toute l'écume. Crache sur la ville des âmes déprimées et des poitrines étroites, des yeux envieux et des doigts gluants, sur la ville des importuns et des impertinents, des écrivassiers et des braillards, des ambitieux exaspérés, sur la ville où s'assemble tout ce qui est carrié, malfamé, lascif, sombre, pourri, ulcéré, conspirateur, crache sur la grande ville et retourne sur tes pas. Mais en cet endroit, Zarathoustra interrompit le fou écumant et lui ferma la bouche. « Te tiras-tu enfin ? » s'écria Zarathoustra. « Il y a longtemps que ta parole et ton allure me dégoûtent. Pourquoi as-tu vécu si longtemps au bord du marécage ? Te voilà, toi aussi, devenu grenouille et crapaud. Ne coule-t-il pas maintenant dans tes propres veines le sang des marécages, vicié et mousseux ? Car toi aussi, tu sais maintenant coasser et blasphémer. Pourquoi n'es-tu pas allé dans la forêt ? Pourquoi n'as-tu pas labouré la terre ? La mer n'est-elle pas pleine de vertes îles ? Je méprise ton mépris. Et si tu m'avertis, pourquoi ne t'es-tu pas averti toi-même ? C'est de l'amour seul que doit me venir le vol de mon mépris et de mon oiseau avertisseur, et non du marécage. On t'appelle mon singe fou écumant, mais je t'appelle mon porc grognant. Ton grognement finira par me gâter mon éloge de la folie. Qu'était-ce donc qui te fit grogner ainsi ? Personne ne te flattait assez. C'est pourquoi tu t'es assis à côté de ces ordures, afin d'avoir des raisons pour grogner, afin d'avoir de nombreuses raisons de vengeance. Car la vengeance, fou vaniteux, c'est toute ton écume. Je t'ai bien deviné. Mais ta parole de fou est nuisible pour moi, même lorsque tu as raison. Et quand même la parole de Zarathoustra aurait mille fois raison, toi, tu me ferais toujours tort avec ma parole. » Ainsi parlait Zarathoustra. Et, regardant la grande ville, il soupira et se tut longtemps. Enfin, il dit ces mots. « Je suis dégoûté de cette grande ville, moi aussi. Il n'y a pas que ce fou qui me dégoûte. Tant ici que là, il n'y a rien à améliorer, rien à rendre pire. Malheur à cette grande ville. Je voudrais voir déjà la colonne de feu qui l'incendiera. Car il faut que de telles colonnes de feu précèdent le grand midi. Mais ceci a son temps et sa propre destinée. Je te donne cependant cet enseignement en guise d'adieu, à toi, fou. Lorsqu'on ne peut plus aimer, il faut passer. » Ainsi parlait Zarathoustra. Et il passa devant le fou et devant la grande ville. Des transfuges. 1. Hélas, tout ce qui naguère était encore vert et coloré sur cette prairie est déjà fané et gris maintenant. Et combien j'ai porté de miel d'espérance d'ici à ma ruche. Tous ces jeunes cœurs sont déjà devenus vieux. Et à peine s'ils sont vieux, ils sont fatigués seulement, vulgaires et nonchalants. Ils expliquent cela en disant « Nous sommes redevenus pieux ». Naguère encore, je les vis marcher à la première heure sur des jambes courageuses, mais leurs jambes de la connaissance se sont fatiguées, et maintenant ils calomnient même leur bravoure du matin. En vérité, plus d'un soulevait jadis sa jambe comme un danseur, le rire lui faisait signe dans ma sagesse. Puis il se mit à réfléchir. Je viens de le voir courbé, rampant vers la croix. Il voltigeait jadis autour de la lumière et de la liberté comme font les moucherons et les jeunes poètes. Un peu plus vieux, un peu plus froid, et déjà ils sont assis derrière le poêle comme des calotins et des cagots. Ont-ils perdu courage parce que la solitude m'a englouti comme aurait fait une baleine? Ont-ils vainement prêté l'oreille, longtemps et plein de désirs, sans entendre mes trompettes et mes appels de héros? Hélas, ils sont toujours en petit nombre, ceux dont le cœur garde longtemps son courage et son impétuosité. Et c'est dans ce petit nombre que l'esprit demeure persévérant. Tout le reste est lâcheté. Tout le reste, c'est toujours le plus grand nombre. Ce sont les vulgaires et les superflus, ceux qui sont de trop. Tout cela sont des lâches. Celui qui est de mon espèce rencontrera sur son chemin des aventures pareilles aux miennes, en sorte que ses premiers compagnons devront être des cadavres et des acrobates. Les seconds compagnons, cependant, ceux-là s'appelleront les croyants, une vivante multitude, beaucoup d'amour, beaucoup de folie, beaucoup de vénération enfantine. C'est à ces croyants que celui qui est de mon espèce parmi les hommes ne devra pas attacher son cœur. C'est à ces printemps et à ces prairies multicolores que celui qui connaît l'espèce humaine, faible et fugitive, ne devra pas croire. Si ces croyants pouvaient autrement, ils voudraient aussi autrement. Ce qui n'est qu'à demi entame tout ce qui est entier. Quand des feuilles se fanent, pourquoi se plaindrait-on? Laissez-les aller. Laisse-les tomber, ô Zarathoustra, et ne te plains pas. Souffle plutôt parmi eux avec le bruissement du vent. Souffle parmi ces feuilles, ô Zarathoustra, que tout ce qui est fané tombe et s'en aille de toi plus vite encore. 2. Nous sommes redevenus pieux. Ainsi confessent les transfuges. Et beaucoup d'entre eux sont encore trop lâches pour confesser cela. Je les regarde dans le blanc des yeux, je le dis en plein visage, et dans la rougeur de leurs joues. Vous êtes de ceux qui prient de nouveau. Cependant, c'est une honte de prier. Non pour tout le monde, mais pour toi et pour moi, et pour tous ceux qui ont leur conscience dans la tête. Pour toi, c'est une honte de prier. Tu le sais bien, le lâche démon en toi qui aime à joindre les mains ou à croiser les bras et qui désire une vie plus facile, ce lâche démon te dit « Il est un dieu ». Mais ainsi tu es de ceux qui fuient la lumière, de ceux que la lumière inquiète sans cesse. Maintenant, il te faut quotidiennement plonger ta tête plus profondément dans la nuit et les ténèbres. Et en vérité, tu as bien choisi ton heure, car les oiseaux de nuit ont repris leur vol. L'heure des êtres nocturnes est venue, l'heure du chômage où ils ne chôment pas. Je l'entends et je le sens. L'heure est venue des chasses et des processions. Non des chasses sauvages, mais des chasses douces et débiles, reniflant dans les coins, sans faire plus de bruit que le murmure des prières. Des chasses au cagot, plein d'âmes. Toutes les souricières des cœurs sont de nouveau braquées, et partout où je soulève un rideau, une petite falaine se précipite dehors. Était-elle blottie là avec une autre petite falaine? Car partout je sens de petites communautés cachées, et partout où il y a des réduits, il y a de nouveaux bigots, avec l'odeur des bigots. Ils se mettent ensemble pendant des soirées entières, et ils se disent « Redevenons comme les petits enfants, et invoquons le bon Dieu ». Ils ont la bouche et l'estomac gâtés par les pieux confiseurs. ou bien, durant de longs soirs, il regarde les ruses d'une araignée à l'affût qui prêche la sagesse aux autres araignées en leur enseignant « Sous les croix, il fait bon tisser sa toile. » Ou bien ils sont assis pendant des journées entières à pêcher à la ligne au bord des marécages et ils croient que c'est là être profond. Mais celui qui pêche où il n'y a pas de poisson, j'estime qu'il n'est même pas superficiel. Ou bien ils apprennent avec joie et piété à jouer de la harpe chez un chansonnier qui aimerait bien s'insinuer dans le cœur des petites jeunes femmes, car ce chansonnier est fatigué des vieilles femmes et de leurs louanges. Ou bien ils apprennent la peur chez un sage à moitié détraqué qui attend, dans des chambres obscures, que les esprits apparaissent, tandis que leur esprit disparaît entièrement. Ou bien ils écoutent un vieux charlatan, musicien ambulant, à qui la tristesse du vent n'a enseigné la lamentation des tons. Maintenant ils sifflent d'après le vent et ils prêchent la tristesse d'un ton triste. Et quelques-uns d'entre eux se sont même faits veilleurs de nuit. Ils savent maintenant souffler dans la corne, circuler la nuit et réveiller de vieilles choses endormies depuis longtemps. J'ai entendu hier dans la nuit, le long des vieux murs du jardin, 5 paroles à propos de ces vieilles choses. Elles venaient de ces vieux veilleurs de nuit tristes et grêles. Pour un père, il ne veille pas assez sur ses enfants. Des pères humains font cela mieux que lui. Il est trop vieux, il ne s'occupe plus du tout de ses enfants. Ainsi répondit l'autre veilleur de nuit. A-t-il des enfants? Personne ne peut le démontrer s'il ne le démontre lui-même. Il y a longtemps que je voudrais une fois le lui voir démontrer sérieusement. Démontrer? A-t-il jamais démontré quelque chose, celui-là? Les preuves lui sont difficiles. Il tient beaucoup à ce que l'on croit en lui. Oui, la foi le sauve, la foi en lui-même. C'est l'habitude des vieilles gens. Nous sommes faits d'eux-mêmes. » Ainsi parlèrent l'un à l'autre les deux veilleurs de nuit, ennemis de la lumière. Puis ils soufflèrent tristement dans leurs cornes. Voilà ce qui se passa hier dans la nuit le long des vieux murs du jardin. Quant à moi, mon cœur se tordait de rire. Il voulait se briser, mais ne savait comment. Et cet accès d'hilarité me secouait le diaphragme. En vérité, ce sera ma mort d'étouffer de rire en voyant des ânes ivres et en entendant ainsi des veilleurs de nuit douter de Dieu. Le temps n'est-il pas depuis longtemps passé, même pour de pareils doutes? Qui aurait le droit de réveiller dans leur sommeil d'aussi vieilles choses ennemies de la lumière? Il y a longtemps que ça n'est fini des dieux anciens. Et en vérité, ils ont eu une bonne et joyeuse fin divine. Ils ne passèrent pas par le crépuscule pour aller vers leur mort. C'est un mensonge de le dire. Au contraire, ils se sont tués eux-mêmes à force de rire. C'est ce qui arriva lorsqu'un dieu prononça lui-même la parole la plus impie. La parole « Il n'y a qu'un dieu ». Tu n'auras point d'autre dieu devant ma face. Une vieille barbe de dieu, un dieu coléreux et jaloux, s'est oublié ainsi. C'est alors que tous les dieux se mirent à rire et à s'écrier en branlant sur leur siège, « N'est-ce pas là précisément la divinité qu'il y ait des dieux, qu'il n'y ait pas un dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ?» Ainsi parlait Zarathoustra dans la ville qu'il aimait et qui est appelée la vache multicolore. Car de cet endroit, il n'avait plus que 2 jours de marche pour retourner à sa caverne auprès de ses animaux. Mais il avait l'âme sans cesse pleine d'allégresse de se savoir si près de son retour. Des transfuges. 1. Hélas, tout ce qui naguère était encore vert et coloré sur cette prairie, est déjà fané et gris maintenant. Et combien j'ai porté de miel d'espérance d'ici à ma ruche. Tous ces jeunes cœurs sont déjà devenus vieux. Et à peine s'ils sont vieux, ils sont fatigués seulement, vulgaires et nonchalants. Ils expliquent cela en disant « Nous sommes redevenus pieux ». Naguère encore, je les vis marcher à la première heure sur des jambes courageuses, mais leurs jambes de la connaissance se sont fatiguées, et maintenant ils calomnient même leur bravoure du matin. En vérité, plus d'un soulevait jadis sa jambe comme un danseur, le rire lui faisait signe dans ma sagesse. Puis il se mit à réfléchir. Je viens de le voir courbé, rampant vers la croix. Il voltigeait jadis autour de la lumière et de la liberté comme font les moucherons et les jeunes poètes. Un peu plus vieux, un peu plus froid, et déjà ils sont assis derrière le poêle comme des calotins et des cagots. Ont-ils perdu courage parce que la solitude m'a englouti comme aurait fait une baleine? Ont-ils vainement prêté l'oreille, longtemps et plein de désirs, sans entendre mes trompettes et mes appels de héros? Hélas, ils sont toujours en petit nombre, ceux dont le cœur garde longtemps son courage et son impétuosité. Et c'est dans ce petit nombre que l'esprit demeure persévérant. Tout le reste est lâcheté. Tout le reste, c'est toujours le plus grand nombre. Ce sont les vulgaires et les superflus, ceux qui sont de trop. Tout cela sont des lâches. Celui qui est de mon espèce rencontrera sur son chemin des aventures pareilles aux miennes, en sorte que ses premiers compagnons devront être des cadavres et des acrobates. Les seconds compagnons, cependant, ceux-là s'appelleront les croyants, une vivante multitude, beaucoup d'amour, beaucoup de folie, beaucoup de vénération enfantine. C'est à ces croyants que celui qui est de mon espèce parmi les hommes ne devra pas attacher son cœur. C'est à ces printemps et à ces prairies multicolores que celui qui connaît l'espèce humaine, faible et fugitive, ne devra pas croire. Si ces croyants pouvaient autrement, ils voudraient aussi autrement. Ce qui n'est qu'à demi entame tout ce qui est entier. Quand des feuilles se fanent, pourquoi se plaindrait-on? Laissez-les aller. Laisse-les tomber, ô Zarathoustra, et ne te plains pas. Souffle plutôt parmi eux avec le bruissement du vent. Souffle parmi ces feuilles, ô Zarathoustra, que tout ce qui est fané tombe et s'en aille de toi plus vite encore. 2. Nous sommes redevenus pieux. Ainsi confessent les transfuges, et beaucoup d'entre eux sont encore trop lâches pour confesser cela. Je les regarde dans le blanc des yeux, je le dis en plein visage, et dans la rougeur de leurs joues. Vous êtes de ceux qui prient de nouveau. Cependant, c'est une honte de prier. Non pour tout le monde, mais pour toi et pour moi, et pour tous ceux qui ont leur conscience dans la tête. Pour toi, c'est une honte de prier. Tu le sais bien, le lâche démon en toi qui aime à joindre les mains ou à croiser les bras et qui désire une vie plus facile, ce lâche démon te dit « Il est un dieu ». Mais ainsi tu es de ceux qui fuient la lumière, de ceux que la lumière inquiète sans cesse. Maintenant, il te faut quotidiennement plonger ta tête plus profondément dans la nuit et les ténèbres. Et en vérité, tu as bien choisi ton heure, car les oiseaux de nuit ont repris leur vol. L'heure des êtres nocturnes est venue, l'heure du chômage où ils ne chôment pas. Je l'entends et je le sens, l'heure est venue des chasses et des processions. Non des chasses sauvages, mais des chasses douces et débiles, reniflant dans les coins, sans faire plus de bruit que le murmure des prières, des chasses au cagot, plein d'âmes. Toutes les souricières des cœurs sont de nouveau braquées, et partout où je soulève un rideau, une petite phalène se précipite dehors. Était-elle blottie là avec une autre petite phalène? Car partout je sens de petites communautés cachées, et partout où il y a des réduits, il y a de nouveaux bigots, avec l'odeur des bigots. Ils se mettent ensemble pendant des soirées entières, et ils se disent « Redevenons comme les petits enfants, et invoquons le bon Dieu ». Ils ont la bouche et l'estomac gâtés par les pieux confiseurs. Ou bien, durant de longs soirs, ils regardent les ruses d'une araignée à l'affût qui prêche la sagesse aux autres araignées en leur enseignant « Sous les croix, il fait bon tisser sa toile ». Ou bien ils sont assis pendant des journées entières à pêcher à la ligne au bord des marécages et ils croient que c'est là être profond. Mais celui qui pêche où il n'y a pas de poisson, j'estime qu'il n'est même pas superficiel. Ou bien ils apprennent avec joie et piété à jouer de la harpe chez un chansonnier qui aimerait bien s'insinuer dans le cœur des petites jeunes femmes, car ce chansonnier est fatigué des vieilles femmes et de leurs louanges. Ou bien ils apprennent la peur chez un sage à moitié détraqué qui attend, dans des chambres obscures, que les esprits apparaissent, tandis que leur esprit disparaît entièrement. Ou bien ils écoutent un vieux charlatan, musicien ambulant, à qui la tristesse du vent n'a enseigné la lamentation des tons. Maintenant il siffle d'après le vent et il prêche la tristesse d'un ton triste. Et quelques-uns d'entre eux se sont même faits veilleurs de nuit. Ils savent maintenant souffler dans la corne, circuler la nuit et réveiller de vieilles choses endormies depuis longtemps. J'ai entendu hier dans la nuit, le long des vieux murs du jardin, 5 paroles à propos de ces vieilles choses. Elles venaient de ces vieux veilleurs de nuit tristes et grêles. Pour un père, il ne veille pas assez sur ses enfants. Des pères humains font cela mieux que lui. Il est trop vieux. Il ne s'occupe plus du tout de ses enfants. Ainsi répondit l'autre veilleur de nuit. A-t-il des enfants? Personne ne peut le démontrer s'il ne le démontre lui-même. Il y a longtemps que je voudrais une fois le lui voir démontrer sérieusement. Démontrer? A-t-il jamais démontré quelque chose, celui-là? Les preuves lui sont difficiles. Il tient beaucoup à ce que l'on croit en lui. Oui, 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 la foi le sauve, la foi en lui-même. C'est l'habitude des vieilles gens. Nous sommes faits d'eux-mêmes. » Ainsi parlèrent l'un à l'autre les deux veilleurs de nuit, ennemis de la lumière. Puis ils soufflèrent tristement dans leurs cornes. Voilà ce qui se passa hier dans la nuit le long des vieux murs du jardin. Quant à moi, mon cœur se tordait de rire. Il voulait se briser, mais ne savait comment. Et cet accès d'hilarité me secouait le diaphragme. En vérité, ce sera ma mort d'étouffer de rire en voyant des ânes ivres et en entendant ainsi des veilleurs de nuit douter de Dieu. Le temps n'est-il pas depuis longtemps passé, même pour de pareils doutes? Qui aurait le droit de réveiller dans leur sommeil d'aussi vieilles choses ennemies de la lumière? Il y a longtemps que ça n'est fini des dieux anciens. Et en vérité, ils ont eu une bonne et joyeuse fin divine. Ils ne passèrent pas par le crépuscule pour aller vers leur mort. C'est un mensonge de le dire. Au contraire, ils se sont tués eux-mêmes à force de rire. C'est ce qui arriva lorsqu'un dieu prononça lui-même la parole la plus impie. La parole « Il n'y a qu'un dieu ». Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Une vieille barbe de Dieu, un Dieu coléreux et jaloux, s'est oublié ainsi. C'est alors que tous les dieux se mirent à rire et à s'écrier en branlant sur leur siège « N'est-ce pas là précisément la divinité qu'il y ait des dieux, qu'il n'y ait pas un dieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ?» Ainsi parlait Zarathoustra dans la ville qu'il aimait et qui est appelée la vache multicolore. Car de cet endroit, il n'avait plus que 2 jours de marche pour retourner à sa caverne auprès de ses animaux. Mais il avait l'âme sans cesse pleine d'allégresse de se savoir si près de son retour.